Dzogchen Today Podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur le podcast de Dzogchen Today. Dans la suite donc de la série sur le soulagement des émotions au jour le jour, nous consacrons quelques épisodes à des familles particulières d'émotions qui sont liées aux bouleversements en cours, bouleversements climatiques et écologiques, mais tout ça est évidemment lié à d'autres changements économiques, politiques et sociaux. Mais dans cet épisode, nous allons approfondir en particulier la famille d'émotions liées à la peur de l'incertitude, de l'inconnu, ou à l'angoisse diffuse que l'on peut ressentir face au lendemain. Et pour ce faire, nous avons deux personnes qui sont venues généreusement avec nous pour en discuter. Mila Kinserine Pocher,
bonjour. Bonjour. Comment ça va depuis quand d'ailleurs?
Ça fait quelques mois là qu'on s'est pas vu.
Oh là là, ça fait trop.
Trop de temps passe entre chaque épisode. Oui, on vous voudrait plus souvent ici.
Ah non, c'est gentil.
Merci à vous d'être présent. Merci. Et Damien Cavrois qui est avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Je vais vous présenter très brièvement. Mila Kinserine, donc ça n'a pas changé nous semble-t-il. Vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant.
Toujours.
Enseignant.
Toujours.
Du Dzogchen.
Toujours.
Et formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe.
C'est bon.
Et toujours détenteur de lignée.
Toujours.
Damien Cavrois, quant à vous, vous êtes architecte de formation et vous vous êtes reconverti dans l'élagage et plus particulièrement en tant qu'arboriste grimpeur. Et ces deux activités d'architecte et d'élagage sont liées pour vous dans votre activité. Et aujourd'hui, avec votre compagne, vous créez, réalisez et entretenez des jardins diversifiés, principalement en Belgique.
C'est exact.
Donc, comme nous l'avons évoqué précédemment, donc, les conditions changent, climatiques, politiques, elles ont un impact fort sur les individus, sur le plan personnel. Et ça nous fait réaliser, en particulier si on pense au changement climatique, que l'on ne maîtrise pas tout, voire peut-être pas grand-chose. Et donc dans cette situation, plusieurs types de réactions et d'émotions peuvent arriver. Et donc là, on va plus particulièrement parler de la peur, ou d'une peur profonde, ou d'un sentiment d'angoisse diffus, qui peuvent s'élever quand on fait face à ces bouleversements écologiques. Et on viendra tout à l'heure plus particulièrement sur un thème dont on a pas mal parlé ces derniers temps, qui est celui de l'éco-anxiété. Donc pour commencer, Damien, est-ce que vous pourriez nous donner brièvement votre constat en tant que professionnel du jardin sur la situation écologique?
Ok. Je dois d'abord effectivement clarifier un petit peu mon propos et simplement pour vraiment préciser que c'est une observation qui est vraiment personnelle, qui est vraiment localisée puisqu'on travaille principalement en Belgique et donc est principalement effectivement liée en tant que jardinier, c'est-à-dire qu'effectivement non pas au sein d'une nature au sens global du terme, mais principalement dans le cadre de jardin puisqu'effectivement c'est vraiment notre job principal. Pour essayer de clarifier un petit peu tout ça, je pense qu'il est toujours bien de remettre un peu les choses dans un contexte un peu plus général, c'est-à-dire que on a de plus en plus de conditions climatiques extrêmes, que ce soit excès d'eau, excès de tempête, excès de chaleur, parfois manque d'eau pendant des semaines ou des mois, qui elles ont effectivement des répercussions vraiment immédiates sur la détérioration de la nature, donc qui ont vraiment un impact tout à fait direct. Maintenant, ces conditions climatiques extrêmes engendrent également un certain nombre de stress, également sur les végétaux, et donc qui, eux, effectivement, peuvent répercuter un certain nombre de problèmes, puisque en période de stress, comme nous, effectivement, on a un affaiblissement et donc comme les plantes, deviennent beaucoup plus sensibles à différents types de pathogènes, et qui fait qu'effectivement, on commence à voir apparaître un peu partout en Europe et bien évidemment en Belgique, des dépérissements complets de certaines espèces dus à des attaques de certains insectes qui, eux, se sont installés sur des sujets beaucoup plus faibles.
Quand vous parlez des pathogènes,
Mais par exemple, il y a des exemples très concrets comme le problème de la scolite, du scolite sur pas mal de conifères, notamment les épicéas. On voit qu'on a des forêts entières d'épicéas qui commencent à disparaître. Donc voilà, c'est également des acariens sur certains pins. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des champignons aussi qui commencent à apparaître de plus en plus régulièrement en Belgique, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. il y a 10 ans, mais là maintenant, depuis 5-6 ans, et ces changements climatiques ou ces conditions extrêmes, on voit vraiment de plus en plus de problèmes qui sont indirectement ou directement liés à ces conditions extrêmes.
Et ça, vous vous rendez bien compte, ce n'est pas que en Belgique, vous avez des exemples de collègues autre part.
Oui, ben, par exemple, voilà, on a effectivement, voilà, on a par exemple des observations. Donc là, on parle effectivement des conditions climatiques extrêmes. Maintenant, on observe également d'autres types d'anomalies. Comme là dernièrement, simplement au mois de septembre, on voit des cerisiers qui commencent à être en fleurs, ce qui est tout à fait anormal, puisque le cerisier fleurit en début de saison, et on a certains clients, enfin, notamment une cliente qui est chilienne, et elle nous explique que son père voit le même phénomène de floraison à des périodes tout à fait inhabituelles de l'autre côté de la planète. Donc on n'est même pas dans le même hémisphère. Donc c'est ça qui est quand même assez paradoxal, c'est que donc on peut vraiment penser que ce problème devient effectivement quelque chose de tout à fait global.
Et par rapport à ce constat que vous venez de faire, de description, on pourrait dire, externe de la nature, est-ce que de manière plus interne, vous sentez des réactions particulières par rapport à ça, donc d'anxiété, d'angoisse ou...
Alors, je pourrais effectivement, j'ai pas mal d'exemples en tête, simplement de voir effectivement l'état dans lequel la nature évolue. Mais si je veux essayer de résumer ou d'essayer d'être un petit peu plus synthétique, il y a vraiment deux exemples qui sont vraiment les plus marquants. Le premier, et je pense qu'il va déjà parler à beaucoup de gens, c'est simplement le contexte économique. C'est-à-dire que voilà, nous, on est indépendants, on travaille pour des clients particuliers. Mais qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que les clients vont pouvoir continuer à s'offrir ou à se payer un jardinier pour entretenir, embellir dans un contexte économique qui est tout à fait incertain ? Et donc, et ça a un impact évidemment sur notre mode de fonctionnement. C'est faut-il continuer à investir? Devons-nous employer du personnel? C'est beaucoup, beaucoup de questions. Parfois, juste se poser la bête question de dire la voiture est en panne, ou elle est en fin de vie, ou elle commence à être vieille, je change ou je répare? Et donc, c'est des sujets tout à fait bêtes auxquels on n'a pas de réponse. Et donc, ça peut même faire très, très peur de se retrouver avec aucune prise, et sans savoir exactement si la prise de décision va être correcte ou pas. Et le second exemple, qui lui, par contre, est beaucoup plus personnel, mais qui a de toute façon un lien avec effectivement ces changements climatiques, c'est, je suis papa d'une petite fille de 15 mois exactement aujourd'hui, donc jour pour jour.
Joyeux anniversaire.
Merci beaucoup. Enfin, coucou. Et je me souviens effectivement, quelques mois, avoir été pris d'une profonde, vraiment, en angoisse, une angoisse complète, en pensant simplement à dans quel avenir, enfin, dans quel va être l'environnement dans lequel elle va pouvoir grandir. Elle est encore tout bébé. On voit de plus en plus de choses qui vont pas dans le bon sens. A priori, ça va certainement pas s'améliorer tout de suite. Et donc, et moi, en tant que père, mon rôle, c'est peut-être de l'y préparer. Mais est-ce que c'est possible de l'y préparer? Qu'est-ce qu'il en est? Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Et je me souviens effectivement avoir été pris d'un stress terrible parce que je me sentais complètement démuni par rapport à toutes ces questions. Et en sachant que oui, je pense que c'est un exemple que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce genre de problème.
Et est-ce que vous pourriez décrire un peu plus précisément encore donc ce type d'émotion, d'angoisse, d'anxiété ou le stress dont vous venez de parler, à quoi ça ressemble en fait dans votre expérience?
Mais ça a été vraiment comme une perte totale de repères, c'est-à-dire aucune prise, même un mode de raisonnement que je pourrais qualifier presque de rationnel ne suffit pas à calmer ces angoisses, parce que à mon avis on était très proche de l'angoisse. Ça a quand même duré quelques semaines, vraiment se sentir qu'une espèce de trou, pas forcément noir, mais un trou, un vide sans fond, sans limite, sans possibilité de se raccrocher à quoi que ce soit. Et de continuer à descendre, parfois plus ou moins vite. Donc il y a quelque chose d'assez vertigineux. Oui, on est presque de l'ordre du vertige, quoi. Donc ça a été vraiment des émotions extrêmement fortes. Et puis, et que faire? Et là-dessus, pas de réponse, quoi.
Et c'est là où je me tourne à présent vers Mila Kensey, par rapport aux constats et aux descriptions qui viennent d'être faites. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu le point de vue de Dzogchen, ou le regard particulier que Dzogchen peut porter sur ce type d'émotions, de peur, d'angoisse et donc d'éco-anxiété aussi, parce qu'on a vu que certains événements de Dzogchen Today portaient en partie sur cette thématique. Vous voulez partager avec nous?
Ce que Damien ici met en avant, c'est vraiment l'incertitude. L'incertitude du lendemain, l'incertitude des conditions. Le fait de ne pas connaître en fait ce qui va se passer, le fait de perdre ses repères par rapport à ce qu'on connaît, et donc automatiquement ça engendre bien entendu des réactions. En tant qu'être humain, en fait, on réagit, et c'est normal puisque nous sommes des êtres humains. Même si nous étions des animaux, ça serait la même chose, nous réagirions par rapport à des conditions. Donc ces réactions, les êtres humains, nous, on a l'habitude de les développer en tant qu'émotion. Et ici, il y a une émotion qui est très, une famille d'émotions qui est très symptomatique de ce type de sujet. C'est vraiment tout ce qui est lié à l'ignorance, le fait de ne pas connaître, et automatiquement tout ce que ça engendre derrière comme incertitude et donc peur de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir tout simplement. Donc le principe de base ici, et c'est ce que le Dzogchen met en avant en fait, c'est le fait que nous ne connaissons pas forcément ce qui va se passer, ne serait-ce que dans la minute qui va arriver. On a plus ou moins développé, nous, surtout en Occident, une habituation de vie, c'est-à-dire l'être humain, il fonctionne suivant des habitudes d'existence, donc boulot, métro, dodo peut-être, mais en tous les cas, suivant une structure en fait qui se répète. Et la difficulté que l'on commence à éprouver à l'heure actuelle, c'est que les conditions qui permettent cette vie ou cette habitude de vie, le fait d'avoir une habitude de fonctionnement toujours le même, eh bien, commence à disparaître par elle-même. Ce qui veut dire que ces habitudes-là de vie, nous commençons à voir qu'elles disparaissent, et donc automatiquement, nous ne savons pas ce qui va petit à petit les remplacer. Donc cette notion-là d'incertitude à la base, bah c'est ce qui commence en fait à couper l'herbe sous nos pieds, à scier la branche sur laquelle on se tient, parce qu'en fait, on commence à ne plus avoir de support réellement sur quoi s'appuyer. Toutes les notions que l'on avait de connaissance de la vie et de connaissance, vous évoquiez... l'exemple donc des cerisiers, on a l'habitude de voir les cerises, les cerisiers fleurir au printemps, et de les voir fleurir en automne, au mois de septembre, c'est quand même assez, j'en frappe même mon micro de surprise, c'est quand même très particulier, et ça remet tout en question, ça remet tout en cause. Et ce que l'on voit derrière, c'est que par rapport à nouveau à ces conditions qui changent complètement, que l'on ne connaît pas, eh bien, nous n'avons pas les réponses, et c'est ce qui a été dit aussi. Nous n'avons pas les réponses parce que ce sont des situations qui sont nouvelles pour nous. Mmh. Nous n'avons pas, en fait, les moyens de répondre à cette évolution. Et encore pire derrière, c'est que très certainement, comme ça a été dit aussi, cette évolution n'est pas terminée, et que les défis auxquels on va répondre peut-être maintenant vont devoir évoluer aussi, parce que ça va être en continuelle évolution. Donc on est là dans une perspective d'anxiété, et c'est de ça dont il s'agit, d'anxiété en termes d'émotion, par rapport au fait que nous n'avons pas les moyens de répondre aux conditions qui se développent très vite, et nous n'avons pas non plus les moyens d'arriver à absorber pour nous-mêmes, de manière personnelle, ce changement-là, qui est un changement trop important, trop vaste. Là, encore une fois, avec les cerisiers, on voit que au Chili, ils changent comme ici, ce qui veut dire que c'est global. Et adresser une réponse globale, alors que nous, on vit de manière assez locale. On est, Damien, tu es en Belgique, Grégoire, tu es où ? En Belgique, moi, je ne suis pas en Belgique, bon, ça va, on est sauvés. le truc, c'est que on est vraiment localisé, mais on s'aperçoit que le problème est général. Et donc, il y a aussi une notion d'impuissance, une notion de peur par rapport à ça, parce que l'échelle est vraiment très, très grande.
Merci beaucoup pour ça. Et Damien, si je reviens vers vous, en tant que jeune pratiquant, si je peux me permettre l'expression,
tout à fait, c'est le cas,
de cette tradition, ça fait quelques années que vous avez rencontré cette tradition de Dzogchen.
Oui, tout à fait. Bah, je suis un peu plus actif depuis vraiment 3 ans, même si j'avais déjà eu quelques brides il y a sans doute une dizaine d'années, un peu par hasard. Bon, après, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment depuis 3 ans, je suis de manière beaucoup plus régulière les enseignements et j'essaie de pratiquer le plus au quotidien possible.
Et donc, ces enseignements vous ont apporté quelque chose qui permet de faire face à ces situations, des choses que vous arrivez à mettre en place dans votre quotidien?
Alors, bon, voilà, en tant que jeune pratiquant, il y a certainement énormément de choses qui me dépassent complètement. Mais en tout cas, il y a quand même un élément qui, pour moi, est extrêmement clair, c'est que... quand je suis soumis ou quand je suis soumis à une émotion, je vois très très clairement par rapport à il y a 10-15 ans que parfois je subissais par exemple des excès de colère, des excès d'émotion, vraiment je les subissais complètement. Et là j'ai vraiment l'impression que simplement agir d'une certaine manière en tant qu'observateur de ce phénomène-là commence à faire en sorte que je puisse avoir une part active dans ce processus. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant de se dire je ne suis plus soumis ou balayé par ces phénomènes d'éco-anxiété, mais je peux, même moi, en tant que simple observateur, commencer à avoir une prise, donc vraiment avoir cette part active. Et donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, une dynamique qui commence vraiment à se mettre en place et qui est très très réjouissante et qui donne envie d'aller de plus en plus loin. Parce que c'est voilà, on commence à tenir un fil et puis on n'a qu'une envie, c'est continuer à tirer dessus pour voir jusque où ça va.
Et vous avez un autre exemple précis encore, donc face à ces sentiments d'angoisse ou d'anxiété, comment vous faites en fait quand ça se présente à vous, par exemple lors de votre activité professionnelle, quelque chose vous submerge, vous êtes balayé?
Mais bon, voilà, c'est oui, je peux effectivement soit être complètement balayé. Après, voilà, ma présence d'esprit fait que parfois je suis balayé et au bout de quelques heures, je me dis mais bon, ok, là je suis pris par quelque chose et là juste le fait d'avoir la présence d'esprit de voir ce qui est en train de se passer, eh bien fait que la tension redescend, la pression redescend et naturellement il y a toujours un peu plus de clarté. Et je vois que généralement ce phénomène ou ces émotions disparaissent plus ou moins rapidement, mais en tout cas elles disparaissent simplement par la prise de conscience de ce phénomène, quoi, de ces émotions.
Merci beaucoup. Ça recoupe un certain nombre d'autres observations qu'on a pu trouver d'autres pratiquantes et pratiquants dans d'autres podcasts. Et donc, Mila Kensei, comme à notre habitude, pour terminer cet épisode, est-ce que vous accepteriez gracieusement, gentiment, généreusement, de nous partager un autre petit exercice pour justement aider à faire face à ces situations?
Un petit exercice très simple, vraiment très, 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 très simple, tout bête. C'est que ici, en fait, nous sommes dans la perspective des émotions liées à la peur, l'anxiété, etc. Donc, bien entendu tourné vers l'éco-anxiété, mais l'éco-anxiété reste de l'anxiété. Donc l'anxiété, comme ça a été dit aussi, la peur, l'anxiété, etc., empêche de faire des choses, empêche d'être clair déjà, comme ça a été dit, de penser à des solutions qui peuvent être mises en place, etc. Donc ça nous empêche véritablement d'être clair et de pouvoir faire les choses. Donc, très simplement, dans le Dzogchen, on dit qu'on travaille avec la matière qui se présente, tout le temps. On ne va pas essayer de prendre des exemples intellectuels, mentaux, d'essayer d'envisager, par exemple au Chili, tiens, on va trouver une solution pour les cerisiers en fleurs en septembre. Non, pas du tout. On va travailler avec ce qui se passe en nous, le moment où ça se passe. Et là, ici, on va travailler avec tous les moments où s'élève l'anxiété et l'angoisse. Alors la difficulté, c'est de bien entendu, comme Damien tu l'as dit, c'est de se rendre compte que ça émerge. Et très souvent, Ce qui se passe, c'est qu'on s'en rend compte au début, mais on ne veut pas. On ne veut pas y faire quelque chose. On ne veut pas avoir une incidence dessus, puisque nous, notre caractéristique en tant qu'être humain, c'est qu'on a toujours tendance à fuir nos émotions parce qu'elles sont désagréables. Surtout, bien entendu, si ce sont des émotions désagréables, bien sûr. Si on part de ce constat, on réalise assez rapidement en fait, qu'il se passe quelque chose en nous, qu'il y a une sensation qui est vraiment désagréable, on sent que c'est désagréable. Et donc, on va la fuir. Donc ici, ce qui est proposé, c'est que dès qu'émerge en fait une sensation désagréable, alors bien sûr on peut le faire avec toutes les sensations désagréables liées aux émotions, là vous pouvez tout à fait envisager de resserrer en fait l'aspect d'observation sur les émotions liées à la peur, l'angoisse, l'anxiété, mais dès que on a l'impression que la sensation de la peur s'élève, par exemple, eh bien, on va simplement s'arrêter. C'est-à-dire, on arrête tout mouvement, tout ce que l'on fait. Donc, par exemple, si on est dans le jardin de quelqu'un ou son jardin, en train de cueillir, par exemple, une cerise au mois de septembre, et qu'on se dit, en septembre, une cerise. Donc là, il y a une émotion. On va s'arrêter là. On va se rendre compte qu'il y a cette émotion. On arrête le mouvement, c'est-à-dire même si on est en train de cueillir une cerise, on arrête le mouvement dès qu'on se rend compte qu'il y a l'émotion. Et la chose que l'on va faire, c'est que l'on va lever lentement, tranquillement les yeux vers le ciel. Donc les porter quand même un petit peu, on n'a pas besoin de bouger la tête, juste porter les yeux vers le ciel. Et là, on reste, on essaie de demeurer naturellement présent. Et présent aussi à la sensation qui s'est élevée, la sensation d'émotion qui s'est élevée, mais en ayant les yeux au ciel. Et donc, on va s'apercevoir très très rapidement que le simple fait de lever les yeux au ciel coupe le lien, dans le Dzogchen, dans les traditions, on appelle ça la saisie que l'on a fait sur la sensation de l'émotion, que l'on a rendue en quelque sorte encore plus réelle, puisque on s'est dit, oups, c'est une émotion, il faut surtout pas que je la vive, je vais plutôt la fuir. Et donc automatiquement, on n'adresse pas, encore une fois, excusez-moi, c'est pas français, oui. mais j'ai fait trop de podcasts en anglais auparavant, on ne va pas résoudre le problème, parce qu'en fait, on fuit le problème. Donc, on ne voit plus le problème. Et donc, là, on va en même temps demeurer sur autre chose, c'est-à-dire que le fait de lever les yeux va créer une disruption par rapport à l'habitude que l'on a, et en même temps, on va pouvoir, les yeux levés, demeurer sur cette sensation et voir qu'en fait, c'est comme si elle disparaissait dans l'espace. Et ça, c'est très intéressant parce qu'une fois qu'on le refait, on va prendre vraiment l'habitude de le faire et ainsi couper vraiment de manière très, très rapide les émotions dès qu'elles émergent. Donc, on peut avoir un autre type de réaction après qui n'est pas conditionné justement par la peur. Et c'est là où les choses peuvent devenir intéressantes, même pour les cerisiers qui fleurissent au mois de septembre.
Merci beaucoup. Et donc, pour être sûr d'avoir parfaitement compris, donc le regard levé, on reste dans cette position quelques secondes, minutes.
Quelques secondes, minutes, ça va dépendre à chaque fois de la réaction. Et généralement, on s'arrête quand l'émotion, en fait, est bien redescendue, qu'elle s'est apaisée naturellement. Donc, c'est assez rapide, hein, malgré tout.
Et pour les mouvements du corps, donc vous avez pris l'exemple du cerisier. Mm-hmm. Là, à ce moment-là, on s'arrête, mais on garde la position dans laquelle on se trouve.
Par exemple, position... tout à fait, parce que ce qui est intéressant, c'est de stopper le mouvement de fuite que l'on a tendance à faire. C'est-à-dire, on va vite prendre la cerise, la manger, par exemple, et puis bloup, on va aller tailler le buis qui est à côté. On freeze, en fait. Je fais plein d'anglicisme. on s'arrête, on arrête le mouvement pour justement éviter de faire un contre-mouvement qui va être un contre-mouvement de fuite. On va en fait courir ailleurs, et courir ailleurs nécessite une action ou une activité. Donc le fait de s'arrêter, ça coupe ça crée vraiment une rupture dans cette réaction qui est tout à fait normale dans ces problématiques-là, qui est donc le fight or flight, en bon français encore une fois.
Exactement.
Qui est soit l'évasion, le fait de vouloir fuir, soit le fait de combattre, en fait, qui émerge. Et donc, le fait de couper et de lever les yeux au ciel, ça va créer une disruption totale par rapport à notre habitude.
Un très grand merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Damien, merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et je profite pour rappeler le fait que des événements Dzogchen Today ont lieu, donc cela sur des durées plus longues, sur une journée, deux journées, et que ceux-ci sont enregistrés et sont disponibles sous forme de podcast. Vous pourrez trouver le lien vers ceci sur le site de Dzogchen Today. Merci beaucoup et à
merci.
La prochaine fois.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.